Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Égypte, 5 personnes ont été inculpées après le suicide d'une adolescente qu'elle faisait chanter en publiant des images montées d'elle sur Internet, indique un communiqué du parquet datant du 6 février 2022. Ces personnes seront renvoyées devant un tribunal sous l'accusation d'avoir menacé la victime Heidi, 15 ans, et sa sœur, diffusant des images indécentes attribuées à la première et agressant le caractère sacré de sa vie privée, précise le parquet. En décembre 2021, une autre adolescente, Bassante Khaled, 17 ans, s'était suicidée pour les mêmes raisons, également dans le nord du pays. Les médias avaient publié la lettre qu'elle avait adressée à sa mère, lui disant de la croire et qu'elle était victime d'un photomontage et ne méritait pas ce qui se passe, selon ses termes. La police avait arrêté un enseignant accusé de l'avoir bassement dénigré devant ses camarades. Selon une étude du baromètre arabe, 90% des femmes entre 18 et 39 ans ont été victimes de harcèlement en 2019 en Égypte. En Colombie, 2 femmes ont mis au jour un réseau pédophile au sein de l'église impliquant 38 prêtres ayant fait une 20aine de victimes. En mars 2019, le pape François avait chargé l'évêque de Villavicencio, Oscar Urbina, d'enquêter sur de possibles abus sexuels commis dans son diocèse. Le prélat a fait appel à 2 de ses fidèles, Olga Cristianzo, ex-procureur, et Socorro Martinez, fonctionnaire retraitée du bureau du procureur général. Elles affirment que 20 religions ont été écartées après leur conclusion. Leur travail a servi de base à un livre publié par le journaliste Juan Barrientos qui a révélé le scandale. Des prêtres ont engagé cette action en justice pour le faire retirer des librairies sans résultat. La justice colombienne a ouvert une enquête et les 2 femmes ont témoigné devant le procureur. Au Gabon, le droit de succession est au centre d'une campagne de vulgarisation à Libreville. Le texte adopté en septembre 2021 par le Parlement est salué par les mouvements féministes comme une importante avancée dans la protection des veuves et orphelins. Le conseil de famille, souvent source de conflits au moment du partage de l'héritage, n'existe plus. Il est remplacé par le conseil successoral. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Ça faisait 20 ans que je vivais avec mon mari. J'ai fait avec lui 4 gosses, 4 filles.
Dans une série de vidéos compilées par une cellule d'accueil et d'écoute pour les conjoints survivants, Nadine Guéma, une veuve de 48 ans, livre un témoignage glaçant sur le sort qu'elle a subi à la mort de son mari.
Les sœurs, les frères sont venus pour nous injurier, parler maintenant du vampire. Ils m'ont insulté, ils ont insulté ma famille. On montait déjà pour venir à Libreville. C'est là où ils ont commencé à nous maudire encore. Le terrain à mon nom, je ne vois pas comment ils vont venir discuter le terrain là. Ils sont restés enterrer leurs frères comme ils ont voulu. Je ne sais pas là où on a enterré mon mari. C'est vraiment triste.
Triste, il n'y a pas de mot juste pour qualifier le drame de plusieurs femmes, comme Nadine. Au Gabon, près de 47% des veuves sont victimes de maltraitance et de spoliation. Seuls 21% d'entre elles entrent dans leurs droits. Alors une journée de sensibilisation sur la succession sert à libérer la parole. Docteur Nicolas Sélé est président de l'ONG L'Appel des Mille et Une, qui a initié cette rencontre dans l'une des mairies de Libreville.
Nous avons des héritiers légaux qui ont été spoliés par des oncles, par des tantes, par des... Donc, aujourd'hui, il est question que les uns et les autres sachent qui est héritier et qui n'est pas héritier. C'est quoi le conseil successoral qui a remplacé le conseil de famille, etc., etc.
Dans cette salle, occupée de moitié par les femmes et quelques hommes, trois conférencières viennent d'exposer sur le nouveau texte qui tranche désormais le débat de la succession au Gabon. Parmi elles, Sidonie Flore Owe, magistrat hors hiérarchie.
Le législateur gabonais a pris le soin de protéger la veuve et les orphelins, ou le veuf et les orphelins, en mettant en place un mécanisme de conservation des biens avant la tenue donc du conseil successoral et la gestion même de la succession du décujus.
Pour résoudre les conflits familiaux nés d'un difficile partage d'héritage, le droit gabonais prévoit aussi l'arbitrage d'un notaire pour départager les ayants droit à une succession. Suzanne Ogula est notaire.
Le notaire est important dans la mesure où il est un arbitre qui est censé être impartial, qui explique l'ensemble des règles de droit qui régissent les successions et qui procède aussi à la liquidation de la succession.
L'article 647 du nouveau code civil gabonais a interdit d'expulser les héritiers légaux du lieu de résidence familiale ou de commettre toute forme de violence à leur encontre.
Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Les dessins animés occupent une place importante dans l'éveil de beaucoup d'enfants dans le monde. Mais face à la rareté de programmes de ce genre dédiés aux enfants noirs, la Camerounaise Ornella Cindy Eboko a voulu changer la donne. Interviewée par Arzuma Compaoré, cette professionnelle de la communication nous explique les raisons qui l'ont poussée à s'intéresser à l'industrie du dessin animé.
Je me suis lancée dans le domaine de l'animation après avoir connu la maternité. J'ai commencé à montrer des dessins animés à ma fille et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y a pas assez de représentation noire dans les dessins animés. Étant très spontanée et créative, je me suis vite lancée sur Internet, j'ai fait des recherches. Comment est-ce qu'on monte des dessins animés? Et c'est comme ça que je me retrouve dans cette industrie aujourd'hui. L'aventure Africa Kids TV a commencé en fin 2019. J'ai eu un animateur qui m'aidait. J'ai eu une amie aussi qui m'aidait avec les petites chansons. Et moi-même qui faisais les voix et qui écrivais les scénarios. Donc, c'est avec le temps que beaucoup de personnes m'ont rejoint dans cette aventure. Et voilà, on forme la petite famille de Africa Kids aujourd'hui. Africa Kids s'adresse à des enfants de 0, hein, parce qu'il y a des épisodes qui sont vraiment pour les tout petits enfants, de 0 à 7 ans. Les personnages principaux sont Jojo et Fofolo. Jojo et Fofolo qui se baladent à travers l'Afrique, qui enseignent, qui montrent aux enfants les beautés, les richesses que le continent africain a, quoi. Si on va en Afrique, on demande aux enfants, où est-ce que tu rêves d'aller? Qu'est-ce que tu rêves de voir? Tous vont nous dire, je rêve de voir la Tour Eiffel. C'est bien beau de vouloir voir la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne rêves pas de voir ce qui se trouve chez toi? C'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'est pas au courant des richesses qui sont chez lui. J'ai fait par exemple un épisode où Jojo et Foufoulou faisaient le tour de l'Afrique. Ils sont allés au Sénégal, ils ont vu la statue le monument de la Renaissance. Ils sont allés au Gabon, ils ont vu la baie des tortues luttes. C'est pour moi le moyen de faire rêver l'enfant de découvrir son continent. Donc c'est un peu ce que je fais. Et aussi, de l'autre côté, je fais des épisodes aussi en langue africaine. J'apprends aux enfants, dans certains épisodes, à parler certaines langues africaines.
Les mutilations génitales féminines sont illégales au Kenya, mais sont toujours imposées aux jeunes filles dans certaines régions. Les cas ont augmenté après la fermeture des écoles en raison de la pandémie. Une survivante a décidé d'aller en guerre contre cette pratique dans une communauté ethnique somalienne. Le point sur la situation à travers un reportage de Brenda Moulinia à Garissa au Kenya. Le récit est de John Lyndon.
Yasmine Mohamed, 23 ans, est bénévole pour Silver Lining Kenya, une organisation qui défend les droits des jeunes filles et des femmes dans le comté de Garissa au Kenya. Elle se concentre sur l'éradication de la pratique illégale et nocive des mutilations génitales féminines ou MGF.
En tant qu'une personne qui a vécu cet acte, je sais à quel point c'est nocif.
Elle et d'autres militants ont rejoint la campagne du gouvernement pour mettre fin aux cas de mutilation génitale féminine. Le nombre de cas de MGF a bondi après que la pandémie de coronavirus a contraint les écoles à fermer, en particulier dans les communautés somaliennes de Garissa.
Le Covid a été un moment pour beaucoup de rester ensemble, donc c'est à ce moment-là que les parents se rendaient compte que leur enfant grandissait. Donc pour celles qui étaient jeunes, il fallait qu'elles passent par la coupe. Pour celles frappées par la puberté, quand vous les voyez, vous dites « Oh, celle-ci est censée être déjà mariée ».
La pratique des MGF reste illégale au Kenya, le gouvernement s'engageant à l'éradiquer d'ici fin 2022, soit 8 ans avant l'échéance mondiale de 2030. Pour Maka Kassim, leader communautaire impliqué dans le sauvetage des filles de cette pratique, cette dernière prospère toujours dans des endroits comme Garissa en raison de fortes croyances culturelles et religieuses.
The Somali cultures, they believe...
La culture somalienne croit qu'une fille qui ne subit pas la coupure, c'est comme quelqu'un qui n'est pas propre, c'est une personne impure. Ils croient aussi qu'une fille qui ne passe pas par la coupe n'est pas non plus propre pour faire les prières.
Le conseil d'administration anti-MGF du gouvernement kényan mène une campagne contre cette pratique nocive. Le PDG du conseil, Bernadette Lolodjou, affirme que garder les écoles ouvertes est essentiel pour lutter contre ce problème, mais il y a également d'autres défis.
Notre seul grand défi est que les filles sont prises pour la coupe à un plus jeune âge. Quand elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, alors les communautés proposent vraiment de nouvelles façons d'échapper à la loi.
Pourtant, les responsables du Kenya soutiennent qu'ils espèrent que les efforts du gouvernement et des défenseurs des filles maintiendront le pays sur bonne voie pour mettre fin à la pratique.
Si jeunesse pouvait...
Ils pensaient revenir construire un Burkina Faso nouveau. Envoyé en 1986 étudié à Cuba par le président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, 600 jeunes de milieux défavorisés seront délaissés à leur retour. L'équivalence des diplômes obtenus à Cuba n'est pas reconnue dans le pays et ceux qu'on appelle les orphelins peinent à avoir une insertion professionnelle. Écoutons un témoignage à travers un récit de Yacouba Ouedraogo.
Stanislas Damiba faisait partie des 600 jeunes issus de milieux défavorisés envoyés étudier à Cuba en septembre 1986 par le président Thomas Sankara. Leur mission, se former pour revenir construire un nouveau Burkina Faso révolutionnaire.
On avait entre 12, 14 et 16 ans. À l'époque, Thomas Sankara, avec l'idéal révolutionnaire, décida de nous envoyer à Cuba pour une formation technique, professionnelle et idéologique. C'est que je voudrais dire qu'on était issus des familles défavorisées, orphelins de surcroît. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on nous appelle actuellement les orphelins de Thomas Sankara.
Arrivé au pouvoir en 1983, Thomas Sankara est un jeune officier de 33 ans, aux idées révolutionnaires qui entend éradiquer la pauvreté de son pays. Il se tourne alors vers Cuba, dirigé par le leader communiste Fidel Castro, un exemple à ses yeux. Stanislas se souvient encore d'un passage du président sur l'île des Caraïbes.
Thomas Sankara arrive à Cuba en 87 et il serre la main de tout un chacun. Les 475 garçons et les 135 filles.
C'était en septembre 1987, un mois après, soit le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. De 1992 à 1996, La plupart des étudiants rentrent au Burkina Faso espérant être intégrés dans la fonction publique, comme cela leur a été promis par l'État avant le départ pour Cuba. Mais pour la majorité, ce ne sera pas le cas. L'équivalence des diplômes obtenus à Cuba n'est pas reconnue. Aujourd'hui encore, l'association des anciens étudiants formés à Cuba lutte pour qu'elle le soit.
Il y a trois points que nous attendions. Le dédommagement pour le préjudice subi de 1992 à nos jours, en tenant compte des ayants droit de nos camarades disparus, l'équivalence réelle de nos diplômes, en tenant compte du volume horaire, et voir nos camarades qui sont à la fonction publique pour qu'ils soient pas sous-employés.
Aujourd'hui, âgé de 46 ans, Stanislas est technicien supérieur en génie civil dans le secteur privé. Il fait souvent un tour au mémorial Thomas Sankara, créé à Ouagadougou, à l'endroit où le leader burkinabé a été assassiné. Là, il ne manque pas d'occasion d'évoquer avec les visiteurs la situation que vivent les membres de leur association. Les dossiers ont été déposés au Haut Conseil pour la réconciliation, qui a reconnu que l'État a failli et doit dédommager ses orphelins de Sankara, selon Stanislas Damiba. Même si cela se réalisait, ce serait en l'absence de beaucoup d'entre eux.
Aujourd'hui, nous déplorons 85 de nos camarades qui sont décédés, certains par suicide, 245 qui sont à la fonction publique sous-employés et 460 qui sont effectivement en chômage précaire.
Du procès des assassins présumés de Thomas Sankara, Stanislas dit n'attendre que la vérité sur la mort de leur père spirituel.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
En République démocratique du Congo, après une année d'absence due à la pandémie de Covid-19, la 8e édition du Festival Amani s'est tenue du 4 au 6 février à Goma, dans le Nord Kivu. Cet événement culturel a rassemblé plus de 30 000 festivaliers venus de plusieurs pays de la région pour prêcher le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les peuples. Un reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Durant trois jours, l'enthousiasme était au rendez-vous sur les sites où s'est tenue la 8e édition du Festival Amani, qui signifie « paix en Swahili ». Chants et danses présentés par des artistes venus de plusieurs horizons ont marqué l'événement. Tous, ils prenaient dans leurs prestations le vivre ensemble et la paix. Le public a réagi positivement.
Nous avons besoin de cadres où nous allons voir d'autres citoyens pour s'exprimer. Il y a un moment où on ne devrait pas avoir des cadres comme ça, où chacun devrait s'exprimer, où chacun devrait passer un message dans la non-violence. Et donc s'il y a des cadres comme ça, je pense qu'on doit toujours les encourager et on doit toujours encourager à d'autres citoyens de les créer pour qu'ensemble nous puissions construire la paix.
La région des Grands Lacs connaît des conflits souvent créés par des accusations mutuelles des pays voisins, des violations des frontières et des soutiens aux groupes rebelles. Cette festivalière pense qu'Amani jouera un rôle de réconciliation entre le peuple à travers l'art.
C'est un moment de réconciliation, de paix. Ils réunissent en fait leurs forces, leur culture ensemble pour se créer un climat favorable. C'est en fait les gens qui se réunissent autour de l'art, autour de la musique. C'est un moyen pour eux d'oublier les mauvaises situations dans lesquelles toutes ces régions font face.
Au-delà de prêcher la paix, ce festival a joué un rôle de vitrine par excellence pour les petits commerçants qui ont profité de la présence des visiteurs pour écouler leurs produits. C'est le cas de Gédéon, cuisinier des rues, qui lors du festival a montré sa dextérité dans la préparation du maïs grillé, une activité qui a boosté son business.
Bon, ça veut dire mchuruzi, kwangu iko na maana sana juu na mimi nakiana quelque chose yangu mu festival Amani. Mimi niko na minzi hapa mnakiana minzi, mnakiana saucisse. Tunazisha watu na tunabanye vie au travers et coucher quelque chose.
Le festival Amani s'est clôturé le dimanche 6 février. Les jeunes de la région des Grands Lacs qui y ont pris part ont souhaité voir cet événement culturel s'étendre à d'autres villes, non seulement de la RDC, mais aussi des autres pays de la région. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
En Côte d'Ivoire, la semoule de manioc appelée communément garba, dérivée de la tieke, est tellement prisée qu'elle fait maintenant partie des habitudes alimentaires. Le coût relativement bas pourrait expliquer sa popularité. Pourquoi l'appellation garba et qui sont les consommateurs favoris? Un élément de réponse dans un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowies.
Le garba a fait son apparition dans les années 90 en Côte d'Ivoire. Il est maintenant vendu aux abords des cités universitaires et des écoles et dans les quartiers populaires d'Abidjan. Accessible à toutes les bourses, le garba a conquis une place de choix dans la gastronomie ivoirienne. Enfants, jeunes et adultes en consomment sans aucune modération. Cette dérivée du traditionnel attiéké poisson, agrémenté de thon grillé et assorti d'autres ingrédients pour devenir une spécialité ivoirienne. Toutefois, l'origine de ce mets reste floue. Le nom garba pourrait tirer son origine du patronyme du premier Nigérien à réaliser un plat peu cher et accessible à tous. La grande commune de Yopougon est mondialement connue pour ses célèbres makis. Première escale, le quartier Maroc au Carrefour Oasis l'enseigne dit garba chaud chez Ousmane. Ce garba drum, si j'ose l'appeler ainsi, se trouve aux abords de la route. Facile d'accès et à presque minuit heure d'Abidjan, il ne désemplit jamais. Il est juste collé à un ferronnier avec tous ses ronronnements et autres bruits d'appareils. Cela ne semble gêner ni les clients ni le propriétaire. Ousmane Diko commence son travail à 7h du matin. On retrouve tous les âges parmi sa clientèle.
Je suis un gamin Raphaël, je suis dans la quarantaine. C'est le meilleur plat, ça. Sans la diguer, on ne peut pas vivre à Abidjan.
C'est moins cher, garba 100 francs et puis 300.
C'est bien la famille, avec 400 francs d'avoir.
Du garba bien épicé, renchéri d'autres clients. À quelques encablures, il y a un autre restaurant concurrence oblige. Il se nomme Garba Choco, du pain jeté à la Sorbonne. Ses potentiels clients sont les élèves.
Garba, c'est la musique la moins chère à
Kempot. Ma camarade a acheté 300 et puis poisson.
Non loin de là, dans un autre lieu appelé Garba Ivoire de Yannick Kofi, la même affluence. Qu'en est-il de l'hygiène, surtout en ces temps de Covid, à vie des clients.
C'est bien propre. Le coin est vraiment bien aéré. C'est là, mais propre. Je suis venu chez mon associé Garba avec votre radio. Ça me fait vraiment plaisir.
Comme l'origine du Garba n'est pas connue, ce n'est pas une marque déposée avec droit d'auteur. Chacun y va avec sa nouvelle appellation. Zegen, Guéro ou même Béton.
Ça veut dire Garba. C'est comme du béton. Hein. C'est parti jusqu'au soir. Moi, c'est Bamba.
Manger rapide, facile et peu cher a déjà fait des milliardaires comme MC Donald, Burger King ou KFC aux États-Unis. Le garba en Côte d'Ivoire, pas de là. Remplir le ventre, est-ce qu'il remplit les poches? Ousmane Diko de Garba Show, Prince TG de Garba Choco, Yannick Kofi de Garba Ivoire répondent tous en cœur avec les souris aux lèvres.
Monsieur, bonjour, bon appétit. Bonjour, bon appétit.
Merci de
voilà. Bon appétit, sacré garba ivoirien. Delphine Bowies, Abidjan, VOA, Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.